Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant d'entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Je crois que pour bien comprendre cet évangile de la transfiguration, qu'on connaît bien, qu'on connaît peut-être trop bien pour s'y arrêter, on est un petit peu peut-être habitué à entendre cet évangile, eh bien il faut se rendre compte d'un petit détail qui n'est pas précisé dans cet évangile, mais juste avant dans la datation. A priori, c'est pas sûr certain au niveau des interprétations, mais la transfiguration tomberait le jour d'une grande fête juive, puisqu'il y a plusieurs grandes fêtes juives, le jour de la fête des tentes. Alors qu'est-ce que c'est la fête des tentes? Peut-être une petite parenthèse pour essayer de comprendre après, le sens de la transfiguration. La fête des tentes, c'est une fête juive où on fait mémoire du passage des Hébreux au désert, le temps du désert dans lequel ils vivaient dans des tentes. Mais alors, comme toutes les fêtes juives, que ce soit le Yom Kippour, que ce soit la fête de Pâques, Il y a plusieurs sens, il y a plusieurs dimensions. Alors dans la fête des tentes, il y a d'abord la première dimension, c'est que avant d'être une fête juive, c'était une fête païenne, c'était une fête des religions de la nature, c'était la fête des récoltes. Donc on construisait des huttes de branchage, des tentes, des soukottes, c'est pour ça qu'on parle aussi de la fête des soukottes. Et donc on construisait des huttes de branchage pendant la semaine des récoltes, et puis on invoquait la nature pour avoir les conditions propices pour faire des bonnes moissons. Les Juifs sont arrivés là-dessus, pour dire simplement les choses, ils ont donné une dimension religieuse à cette fête, et ils en ont fait une commémoration des bienfaits de Dieu sur le peuple juif. Donc une commémoration de ce passage dans le désert, durant lequel ils vivaient sous les tentes, et ces tentes dans lesquelles ils vivaient, cette tente, on pense à la tente de la rencontre, dans laquelle Dieu est présent, et bien ces tentes sont le signe de la bienveillance de Dieu qui s'occupe d'eux, qui prend soin d'eux. Voilà. Donc c'est à la fois, à la base, une fête des religions de la nature, qui prend un sens religieux et qui devient une fête de commémoration des bienfaits de Dieu, et puis qui a un troisième sens, qui annonce quelque chose, qui est une promesse, qui est déjà une espérance, c'est l'espérance des on parle dans l'Apocalypse, des tentes éternelles, de la bienveillance de Dieu, mais pour l'éternité. Plus tard, nous vivrons dans la demeure de Dieu. Voilà comment les Juifs vivaient cette fête des tentes, et comment ils la vivaient à la fois dans une commémoration de ce que Dieu a fait pour eux, mais en même temps dans une espérance de ce que Dieu va faire pour eux dans l'éternité, même s'ils ne parlaient pas d'éternité et que tout ça s'est arrivé un petit peu après. Mais voilà. Et donc voilà que Jésus, ce jour-là, est transfiguré. Donc en fait, d'une certaine manière, Jésus est en train d'accomplir le véritable sens de la fête des tentes. Ce que les Juifs attendaient et espéraient à chacune de ces fêtes, voilà que c'est en train de se réaliser. Voilà que Jésus, la présence de Dieu dans le peuple au désert, est en train de se réaliser. Et si on regarde bien le prologue de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, c'est une traduction qui est peut-être un petit peu rapide, si on traduit plus exactement, c'est « et il a campé parmi nous ». Et voilà que les Pierre, Jacques et Jean, ils sont trop contents, c'est super, c'est trop bien, sur la montagne, donc ils disent « plantons ici trois tentes ». Donc Jésus est en train d'accomplir de façon totale la fête des tentes, c'est-à-dire la présence de Dieu parmi nous. Et donc, on comprend que pour comprendre les fêtes juives, il faut comprendre la vie de Jésus. C'est Jésus qui donne le sens aux fêtes juives. C'est Jésus qui réalise pleinement les fêtes juives. Et il y a toujours ce parallèle entre ce qui s'est passé au désert dans le peuple hébreu et ce que Jésus va vivre. Il y a toujours un écho entre l'Évangile et l'Ancien Testament. L'un et l'autre ne peuvent pas se comprendre de façon isolée. Dans ce texte, on a un petit détail. On parle d'une nuée. Il y a la nuée. Alors là, on va en arrière et on repense à l'Ancien Testament avec les tentes dans le désert et en particulier à la tente de la rencontre. Et la nuée, c'était quoi cette nuée dans le désert? Cette nuée, c'était cette espèce de clair-obscur dans lequel Dieu était présent. Dieu se manifestait non pas à visage découvert, mais Dieu, dans l'Ancien Testament, dans ce passage au désert, il se manifeste de façon un petit peu voilée dans la nuée, de façon un petit peu à la fois manifeste, mais en même temps discrète. Et puis voilà qu'on a la nuée ici. Encore un écho qui nous dit « la véritable présence de Dieu est dans Jésus ». Et voilà que dans l'Ancien Testament, on monte au Sinaï, on est sur une montagne. Là également, nous sommes sur une montagne. Donc on va et puis on a Moïse. Moïse qui est là. Moïse, c'est celui qui a commencé à écouter Dieu. Et voilà aujourd'hui qu'on dit « écoutez-le ». Donc tout s'accomplit. Cette parole de Dieu qui a commencé dans le désert, Dieu a commencé à parler à son peuple. Alors parler dans une relation de Dieu avec son peuple, pas encore tout à fait personnelle, mais voilà que ça se réalise. Ça se réalise pleinement. Le véritable Sinaï est ici sur la transfiguration. La véritable nuée est ici sur la transfiguration. La véritable tente, une présence de Dieu, est ici à la transfiguration. Et donc je voudrais peut-être qu'on s'arrête, après cette petite introduction, ça ne va pas être très long, qu'on s'arrête sur ce « écoutez-le ». « Écoutez-le » qui vient comme accomplir la parole de Dieu. Dieu essaye de nous parler depuis l'Ancien Testament et tout d'un coup, il nous parle en plénitude. Alors, on peut se poser une petite question, c'est comment Dieu me parle? Bien souvent, on dit oui, alors moi je prie, je vais prier, je confie ma journée, je parle au Seigneur, etc. Mais on a parfois l'impression que certaines prières tournent à des monologues. Alors c'est très bien de parler, il faut parler au Seigneur, allons-y. Mais dans un dialogue, c'est pas un bimonologue, c'est pas deux personnes qui parlent, et puis chacun essaie de parler, et puis on parle, mais il n'y a plus de place pour l'écoute. La meilleure moyen d'écouter, c'est aussi de se taire. Donc dans la relation avec le Seigneur, on parle, bien sûr qu'on parle, c'est formidable, mais aussi on écoute. Et peut-être que l'écoute fait partie du grand oublié en général, pas toujours, mais peut-être un peu plus, parce que c'est plus difficile d'écouter. C'est plus difficile. Et aujourd'hui, voilà que Dieu est en train de nous dire « Je vous ai parlé plein de fois, mais aujourd'hui je vous parle d'une manière tout à fait extraordinaire, puisque, écoutez-le, c'est lui ma parole. » Alors je voudrais prendre une petite image pour essayer de comprendre comment Dieu nous parle dans notre vie. L'Évangile nous dit « C'est lui, Dieu nous parle par Jésus. » D'accord. Alors je vais replacer ça plus largement. Dans l'exhortation de Benoît XVI sur le synode, sur la parole de Dieu, le petit bilan qu'ils ont fait du synode des évêques sur la parole de Dieu, ils utilisent une image, je pense, qui est très parlante, qui est l'image de la symphonie. Dans une symphonie, eh bien, il y a... Il prend l'image d'un concerto, plus exactement. Un concerto pour piano, concerto pour violon. Vous mettez le soliste que vous voulez. Dans un concerto, eh bien, on a un air, on a un thème. Un thème, on a, on pourrait dire, une parole. Une parole qui va être interprétée par plusieurs instruments, plusieurs voix. Les clarinettes, les violons, les hautbois, etc. Mais il y a aussi, donc il y a plusieurs voix. Alors plusieurs voix, donc Dieu nous parle, il a une parole, mais il nous parle à travers plusieurs voix. Alors quelles sont ces voix? Toutes ces voix à travers lesquelles Dieu nous parle, qui ne sont pas les voix les plus importantes, mais qui sont importantes aussi. Quelles sont ces clarinettes, ces violons, ces cymbales, ces hautbois, et tout ce qu'on veut. Eh bien, Dieu nous parle peut-être d'abord par la création. C'est vrai qu'un, par exemple, le beau, la beauté, ce qui est vraiment beau, pensez à un beau paysage, mais on pense à autre chose, le beau nous parle... du beau avec un grand B. La beauté, si on est sensible à la beauté des choses, eh bien, peut-être que quand on voit un beau paysage à la montagne, eh bien, on se dit que l'auteur, l'artiste, doit être immensément beau. Dieu nous parle aussi à travers d'autres voies, il nous parle à travers les personnes qu'on rencontre, nous parle à travers les événements qu'on vit, il nous parle à travers les prophètes. Il a parlé sur le mont Sinaï, dans le désert. Donc là, je pense à toute la parole de Dieu, les prophètes. C'est pas toujours facile à lire les prophètes, parce que c'est parfois un petit peu implicite, c'est un petit peu voilé, hein. On a plein de métaphores partout, on sait pas trop. C'est pas toujours facile de se plonger dans le livre d'Isaïe, le livre d'Ézéchiel, mais Dieu nous parle. Mais comme dans un concerto, je reviens à mon image, à un moment, il y a un soliste qui sort du lot et qui résume à lui-même toutes les autres voix. Quand dans le concerto pour violon de Tchaïkovski, pour ceux qui ont vu le film, le concert, eh bien le centre, c'est le soliste qui joue du violon. Voilà. Et il va résumer à lui tout seul tout ce qui a été joué autour. Et tout ce qui a été joué autour n'a de sens que par rapport au soliste. Et ce soliste qui sort du lot, qui résume tout ce qui a été dit, qui récapitule tout, et qui le dit une bonne fois pour toutes, et après lui, personne ne le dira davantage, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Ce soliste, c'est Jésus. C'est-à-dire que Dieu nous a parlé par plein de voix, il a une parole, mais à un moment, il y a une de ces voix qui sort du lot, qui résume toutes les autres, c'est Jésus-Christ. Et alors, c'est très étonnant de se dire que Dieu nous parle à travers une personne. On comprend quand on dit, bon, moi, quand je vous parle, il y a des ondes sonores qui sortent, arrivent à vos oreilles, on comprend, dans le meilleur des cas, j'espère. Et voilà, on parle par des sons, on parle par des sons. Là, Dieu nous parle, sa parole, le verbe, c'est une personne. Dieu se communique, rentre en relation avec nous, non pas par des sons, mais par une personne. Donc autrement dit, si je vais écouter Dieu, je n'ouvre pas mes oreilles en disant « voilà, c'est quoi les sons là ? Vas-y, j'écoute. » Mais je rencontre une personne. Donc je ne peux pas écouter Dieu sans rencontrer, non pas juste avec mes oreilles, mais avec tout mon être, mon âme, ma psychologie et mon corps, rencontrer une autre personne. Et c'est là où on comprend que le cœur de la foi chrétienne, c'est la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Pas seulement des valeurs, c'est pas seulement des beaux discours. Ah, écoutez-le, bon, alors c'est où que Jésus y parle? Ah, Jésus y parle là, discours sur la montagne, ça me plaît bien parce qu'il est en train de nous faire la morale du début à la fin, donc c'est magnifique, j'écoute. Bien sûr que c'est formidable, mais c'est pas suffisant. Dans l'évangile, tout est important. Même le moment où on dit, et Jésus se promenait, il passait sous la porte, il allait guérir un lépreux. Tout ça, tout est important. Parce que quand j'écoute Dieu, je rencontre une personne. J'écoute pas seulement ce que dit Jésus, bien sûr que les moments où Jésus parle sont géniaux, super, mais ce qui est important, c'est de rencontrer une personne. Donc pour nous chrétiens, eh bien cet évangile nous rappelle que Dieu nous parle par une personne, donc si Dieu nous parle par une personne, il faut que je rencontre cette personne. Et cette personne, je la rencontre tout particulièrement dans les évangiles, dans la lecture des évangiles, où je viens me frotter à une humanité. Hein ? C'est pas juste une sagesse. Jésus dit, il y a plus que Salomon. C'est pas des valeurs, seulement des valeurs, c'est pas juste des beaux discours, c'est pas juste une... Ah ouais, moi, les valeurs chrétiennes, je trouve ça plutôt pas mal. Très bien. Mais c'est une rencontre avec une personne, Jésus-Christ, c'est une relation d'amitié et d'amour, un cœur à cœur avec une personne. Donc je le rencontre dans l'Évangile, je le rencontre bien sûr dans l'Eucharistie, où je reçois cette personne. Et je vis ce cœur à cœur dans le temps d'action de grâce avec Jésus-Christ. Je le rencontre dans le sacrement de la réconciliation. L'Église nous donne des moyens formidables pour rencontrer Jésus. Alors peut-être pouvons-nous en garder au moins un, porter notre attention particulièrement sur un de ces moyens, écoutez-le, eh bien c'est, je pense, la fréquentation des évangiles. Retrouvons pendant ce carême peut-être, ou simplement aujourd'hui, mais la lecture des évangiles. Peut-être que parmi nous il y en a qui lisent beaucoup les évangiles, peut-être qu'il y en a pour qui connaissent par cœur l'Évangile à tel point que chaque fois qu'il est lu à la messe, on se met sur le mode « je connais par cœur, donc je n'écoute plus ». Retrouvons les Évangiles, la lecture des Évangiles. Les pères du désert, ils n'avaient pas de papier, donc ils n'avaient pas tout l'Évangile, donc ils avaient une grosse mémoire. Donc ils avaient certains passages de l'Évangile qu'ils connaissaient bien, et ça suffisait à nourrir toute leur vie. Donc bien sûr qu'ils connaissaient par cœur, c'est évident, mais ils s'en lassaient jamais. Donc c'est pas parce qu'on connaît l'Évangile qu'on n'a pas besoin de le lire. L'Évangile, c'est une rencontre, c'est pas une belle histoire que je connais par cœur, c'est une rencontre. Donc je ne me lasse pas de lire l'Évangile et d'y découvrir des nouvelles choses, parce que Dieu me parle différemment à chaque fois. Alors puissions-nous tout simplement aujourd'hui et jusqu'à Pâques, pourquoi pas après, retrouver le sens et l'importance de la découverte du Christ dans la lecture des Évangiles. Amen.